sous les couvercles, la Good Food.
Aujourd'hui, les amis, nous plongeons dans l'univers fascinant du café, cette boisson universelle, historique, qui a ainsi suivi le fil de l'humanité. Du petit kawa bien serré originel aux versions industrielles d'aujourd'hui, aux capsules habilement marketées, aidées par un beau Georges, que j'accueille quand il veut d'ailleurs.
Ah oui.
Le grain opère en 2025 sa petite révolution, une sorte de retour aux sources, on les appelle d'ailleurs dans le jargon les cafés de spécialité à marché Carlo, toujours de niche, mais quand même 20% du marché mondial et en constante augmentation. Alors pour en parler ce matin, un duo terrible, Marie-Emerance de Montpellier et Harold Ancio. Vous êtes désormais les propriétaires de la maison Corica. Marie-Emerance, c'est une maison historique qui était déjà là il y a bien bien longtemps dans le cœur de Bruxelles.
Tout à fait. Corica, c'est anciennement Samoka.
Ouais. Et, que tous les Bruxellois connaissent.
Hein, oui, bien. Tout ouais. À fait. Bah, y en avait,
si tu conduis, ne bois pas, bois Samoka.
Oui.
Le slogan de la maison.
C'est drôle. Mais c'est vrai qu'ils ont ouvert beaucoup de boutiques jusque 10 à Rolles, si je ne me trompe
ouais.
pas. Et après, en 91, il y a la famille Bulemann, un des descendants de Samoka, qui a ouvert justement Corica et qui a déménagé à l'endroit où nous, on est là maintenant, rue Marché au Poulet 49. Et Harold a eu, à 22 ans, l'opportunité de racheter Corica.
Wow.
Et il s'est lancé dans l'aventure du café, un peu au tout début du café de spécialité, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait presque aucun bar qui faisait, par exemple, du latte arté. On était un peu tout seul. Et c'est vrai qu'au début, quand on en parlait autour de nous, les gens disaient, mais pourquoi vous faites ça?
Oui, parce que c'était l'époque où les géants du café, Starbucks & Co., ont commencé à faire leur incursion en Europe. Et, et donc, c'était un pari assez risqué. Harold, il y avait une passion d'abord pour le café, pour des saveurs de l'enfance, peut-être?
Ouais, je trouvais que ma mère était juriste de formation, mais elle avait fait un accès à la profession c'est pas le Siriam, c'est l'équivalent à Namur.
Ouais.
Et donc, oui, ma mère on a toujours été sensible à l'alimentation et à bien manger. Et je trouvais qu'en fait, j'avais une autre passion à côté. J'aime bien aussi la mécanique en général. Et je sais pas pourquoi, je trouvais que le café faisait.
un
mix des deux. Il y avait de la machinerie et les goûts. C'était un peu le mélange de ces deux choses. Puis après, il y avait finalement, quand je suis rentré là, ma mère s'est dit il y a une affaire à Ahmed, je te propose qu'on aille boire un café ensemble. Et on a bu un café Jorica. Elle me dit mais c'est cette affaire qui est Ahmed. Elle me dit ça te branche, je lui dis bouillant.
On y va. Et vous avez eu du flair parce que effectivement c'est une tendance importante en Belgique. Hein. On dénombre en 2024 120 coffee shops de café de spécialisés, des torréfacteurs qui se lancent dans l'aventure. C'est quand même pour chaque Belge per capita donc près de 7 kilos de café. Par an. Donc voilà, c'est un produit qui fait partie véritablement de nos quotidiens et un marché mondial qui est appelé encore à grandir. On est à 133 milliards de dollars pour le marché en 2023 et on attend une croissance de 3,7% à l'horizon 2029. Donc, pas d'inquiétude, le café a toujours le vent en poupe. Mais là où la révolution se perd d'ailleurs, c'est une révolution qu'on voit aussi dans les fèves de cacao. Il y a eu une industrie qui a très bien fait son job, c'est-à-dire nous proposer des chocolats à grande échelle, profil aromatique toujours identique. On a peut-être oublié le sourcing, on a peut-être oublié l'éthique, l'environnement. Et puis il y a ces artisans, qu'on soit d'ailleurs souvent dans cette émission, qui œuvrent à montrer que d'autres alternatives sont possibles. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, dans le milieu du café, Marie-Emerance.
Tout à fait. Ici, au niveau du sourcing, on a toujours travaillé avec du single origine.
Qu'on comprenne bien, single origine. Donc c'est le café.
On fait très peu de blend en fait. On travaille.
Donc, on fait pas de mélange.
Très peu de mélange, c'est ça. Et donc on a acheté Corica à l'époque. C'était déjà le cas. C'était vraiment quand vous rentrez chez Corica, vous allez trouver la torréfaction dans la vitrine. Donc on fait vraiment tout de manière transparente, parce que tous nos cafés sont torréfiés. Alors, on a aussi un atelier à Charleroi, mais c'est avec la même machinerie, les mêmes cafés. Et alors, vous avez deux comptoirs, un avec 20 moulins de café à espresso. Et alors, vous pouvez tous les choisir. Et ça vous aide, du coup, à avoir de l'autre côté, ça vous aide à choisir le café que vous voulez pour chez vous, en grain moulu.
C'est ça. Donc, en fait, dans cette démarche de café dit de spécialité, on pourrait dire artisanaux, souvent, il y a vraiment une reprise en main de l'entièreté de la filière, Harold. Ça veut dire que depuis le planteur de grains de café jusqu'à la torréfaction finale, on se réapproprie des savoir-faire, je dirais presque à l'ancienne.
Tout à fait. Je pense qu'il y a des méthodes aussi. On va dire, ce qui est le plus connu, finalement, dans les méthodes de café, enfin, donc, le café étant, je rappelle, un arbuste avec des cerises, et on enlève les deux grains que chaque cerise contient pour après, nous, en tant que torréfacteur, le torréfier. Oui. Mais ce qui est le plus courant, c'est la méthode qu'on appelle fully wash. Donc les grains, ces deux noyaux, sont rincés à grande eau et puis après mis sous des terrasses en séchage, puis mis en sachet, puis envoyés chez nous en Europe.
Ça, c'est l'industrie que vous voulez.
C'était les méthodes les plus classiques de café qu'on retrouve dans les cafés mainstream. Si on prend finalement un café d'industriel qui s'appelle par exemple le mélange mocha ou le mélange grand-mère, selon le nom qu'ils veulent donner comme nom générique, il va la plupart du temps se composer avec une base de café brésilien, puisque le Brésil étant le plus gros producteur d'arabica mondial, souvent une petite partie de colombien, éventuellement un peu de robusta pour donner un peu un kick d'amertume qui va venir soit du Togo, du Vietnam, d'Inde ou que sais-je, selon les prix du cours mondial en vigueur. Donc ça, c'est, je dirais, un café mainstream qui est peut-être dans l'idée de l'industriel de faire les choses les plus consensuelles, de taper le plus au milieu possible des goûts de chacun. Et nous, notre idée est de dire, mais en fait, il y a plein d'autres méthodes pour boire son café, y compris de traiter la cerise.
Mais donc, ça veut dire, donc, depuis le traitement de la cerise, donc j'imagine qu'on va devoir enlever la pulpe de cette cerise pour récolter le duo de grains.
Ou pas, c'est ça la nuance.
C'est-à-dire, ou pas.
C'est-à-dire que de temps en temps, il y a le procédé qui existe aussi, naturel. Donc, c'est qu'on prend les cerises et on les met directement en séchage en terrasse, sans les rincer à l'eau. Et ça dépend pas qu'une question d'ordre gastronomique ou de plaisir. Ça peut dépendre aussi, en fait, de la disponibilité de l'eau sur une région. Des régions parfois très arides, ou l'Éthiopie, ou éventuellement le Brésil, en l'occurrence. Aussi des problèmes de sécheresse. Donc, c'est des méthodes choisies aussi pour essayer de répondre au mieux.
À une réalité environnementale.
Oui, c'est ça. Les deux grains restent dans leur baie, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vont sécher comme ça.
Ils vont sécher, donc le fruit va se
couper. Et expédier comme ça ensuite ?
Non, ils vont quand même être après passés dans des machines qui vont les secouer pour que les deux grains sortent de leur peau et de leur parche, tout à fait.
Mais ça veut dire que cette méthode-là dont vous venez de faire mention, elle apporte quoi ou elle enlève quoi ?
Moi, je trouve qu'elle apporte plus, qu'elle va peut-être un peu enlever, je veux dire, pour un usage, si on veut vraiment une régularité, c'est être un peu moins stable parce qu'il y a une fermentation,
c'est ça,
une macération.
Oui, comme le cacao, d'ailleurs.
Et un côté un peu plus vineux, légèrement plus liquoreux, qui va parfois déplaire à certains.
Mais en revanche, Harold, il y a une fermentation automatique comme pour la fève de cacao, non ?
Pas tout à fait automatique, non. Et il y a même des différents types de fermentation qui peuvent être choisis, y compris les fermentations anaérobiques, sans contact avec l'oxygène. Donc
là, ça, à ce niveau-là, ça se différencie totalement de la chaîne du chocolat.
Là, on est sur des choses plus pointues. Je ne peux pas non plus me prononcer trop dans le cacao, même si c'est un produit cousin.
Oui,
mais
oui.
Ce n'est pas mon métier.
On sait très bien que les temps de fermentation peuvent varier, simple au double. On sait que déjà aussi la cueillette, le fait de cueillir à grande échelle et faire une sélection, d'ailleurs comme le thé, où on sélectionne les feuilles parfaitement prêtes à passer ou non à la fermentation. Donc c'est ça d'abord. C'est une réappropriation du temps de ces grains de café, ce que l'industrie n'a pas. Mais elle a trouvé la panacée universelle, c'est que grâce à tous ces blends dont vous faites mention, ils parviennent à avoir un goût homogène tout au long de l'année, et d'ailleurs même une signature que toute grande marque a avec des signatures qu'on peut aimer ou pas, avec des torréfactions plus ou moins fortes. Donc ce que vous faites dans cette démarche, comme le font aujourd'hui ces nouveaux artisans du café de spécialité, c'est essayer la reconnexion avec le producteur, avec le planteur, regarder un petit peu aussi le microbiote ambiant, est-ce que c'est de la monoculture ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'intrants chimiques, parce que ça c'est une réalité de terrain. Donc ça c'est déjà le premier point, c'est du sourcing et une exigence.
Tout à fait.
Ensuite vous obtenez ce grain, fermenté de différentes manières, et vous le torréfiez, si j'ai bien compris.
C'est bien ça. Ça, c'est plutôt... On couvre d'autres étapes dans la chaîne de production. C'est effectivement la torréfaction, jusqu'à la mouture, jusque carrément au service, jusqu'à la tasse, finalement. Oui. C'est ça, notre engagement et notre rôle qu'on joue dans cette chaîne de valeur.
Et en quoi la torréfaction d'un industriel va se différencier d'une torréfaction comme la vôtre ?
Plus artisanale, ça veut dire que c'est... À un moment, il y a quand même un procédé de cuisson, mais c'est juste qu'eux vont essayer de maximiser le rendement. Donc, on va parler de tonnage à l'heure. Donc, eux, leur intérêt est de faire un max de tonnes en le moins de temps possible. Donc, soit c'est des énormes machines qui de très grande capacité, mais qui vont être un peu moins fine dans la manière dont on peut ressortir un café, soit c'est carrément des méthodes qu'on appelle flash, où c'est à très très haute température et on surbrûle le café.
Et ça abîme finalement le café. On a pas mal de questions, d'ailleurs j'ai oublié de vous le signaler, si vous voulez nous envoyer vos questions, il y a les habitués qui connaissent l'adresse, c'est bientôt à table @rtbf.be, notamment Jean qui nous dit si je retrouve ma feuille, ça c'est un peu la question au piège, mais je vais quand même vous la poser. Dis-moi, j'ai découvert les cafés de spécialité via mes petits-enfants, des trentenaires, qui ont vraiment le goût de rechercher du sens dans leur alimentation. Ils achètent aussi des chocolats artisanaux, du bean to bar, donc c'est eux qui ont fait finalement percoler tout ça. Mais ils demandent, moi je continue malgré tout à acheter du café en grande distribution. Question au piège, est-ce qu'il y a une marque qui se démarque des autres. Mais là, je m'adresse peut-être à un goût tout à fait personnel.
Non, il n'y a pas de piège.
Moi, je dirais selon mes goûts, selon le parcours que un industriel, je dirais international, je dirais personnellement, il y, mais à l'échelle nationale peut-être, je sais pas, Rombouts comme gros torréfacteur pour c'est leur côté innovant.
Et alors, c'est le réflexe du chroniqueur consommation du quotidien, c'est quand, cher auditeur, rappelez-moi le prénom de notre auditeur.
Vous l'avez, je l'ai pas plus, pardon. Pas
ben, je m'adresse quand même à vous. C'est quand vous êtes en grande distribution, regardez toujours pour un même produit le prix au kilo. Et donc, par exemple, on peut avoir des marques tout à fait honnêtes comme le Illy que vous venez de citer, Harold, mais achetez-le en boîte, pas en capsule, parce que c'est là où on se fait défoncer. Mm-hmm. C'est quand on commence à acheter des produits en capsule ou en dosette ou en pâte. Et là, franchement, on finit par payer beaucoup plus cher que le café de spécialité. Et donc là, ça pose vraiment question.
Et bien justement, Mirella nous demande, mais justement, combien au kilo, combien coûtent des cafés de spécialité? Parce que
pas si cher.
J'imagine qu'il y a des gammes, mais...
C'est pas non plus le plus accessible, on va pas se mentir, on n'est pas dans le registre du discount, mais chez nous, on est en moyenne aux alentours d'une trentaine d'euros, mais je dirais la tape moyenne pour le vraiment spécialité assez haut de gamme, on va commencer plutôt aux alentours des 40, et après, ça peut s'envoler dans des prix parfois assez exorbitants, mais là, on paye vraiment les raretés, l'hyper-exclusivité, et là, oui, ça peut monter très haut. Mais...
Ici, j'ai sous les yeux un Columbia Geisha Carbonique Macération, donc c'est une fermentation dont vous venez de faire mention très particulière, qui permet de capturer tous les parfums. Et là, encore, on est aux environs de 90 euros du kilo. Mais bon,
un peu passé.
Mais on peut trouver des cafés. Et d'ailleurs, à la tasse, c'est ce que viennent rechercher d'ailleurs les amateurs de café qui viennent dans vos coffee bars. C'est pour une petite tasse. Ben, ils ont une expérience. En fait, pas mal d'auditeurs qui nous disent qu'il y a surtout une expérience du café de spécialité. C'est qu'on découvre que le café, c'est autre chose que ses goûts dont on est habitué, finalement.
Bon. Pardon, je vous interroge, j'étais en train de faire un calcul. Quand je prends une tasse de café d'une très très grande marque du type à cheveux argentés que vous aimez bien, Sophie, ça me coûte 60 euros du kilo. Voilà.
Ah, oui, mais donc vous avez la preuve que c'est pas
alors 60 euros du kilo, c'est peut-être un peu plus cher ici, mais donc on est entre 40 et 60 euros du kilo pour du... Et ça reste un produit très industriel, hein, le café de machine espresso.
Bah, surtout quand on sait le grammage qu'il y a dans ces capsules.
Bah, je suis parti sur 7 grammes, et à mon avis, à moins.
Bah oui, à moins. Ouais.
5.
Mais donc, Marie-Emerance, les consommateurs qui viennent déguster une tasse de café quand ils viennent dans votre coffee bar, ils viennent pour une expérience. Ils savent que pour 3-4 euros, une tasse, ils vont vivre autre chose. Quelles sont leurs impressions lorsqu'ils découvrent pour la première fois toutes ces saveurs?
Déjà, nous, souvent, c'est un gros waouh, rien qu'à cause de tous les moulins et la sélection. Mmh. Après, c'est vrai qu'on aime bien faire vivre une expérience aux gens quand ils rentrent chez nous. Donc, c'est vrai que les baristas sont vraiment formés à trouver le café qui va faire en sorte que mon client va être vraiment waouh. Et si c'est un habitué, essayer de lui faire découvrir des nouvelles choses et le sortir des sentiers battus et de ce dont il a l'habitude. Donc, c'est vrai qu'ici, nous, c'est l'entrée de gamme, c'est 3 euros le café. Mais même pour mes cafés d'exception, on est à 4,50 euros pour des découvertes vraiment de micro-lots, travaillées de manière tout à fait particulière, sur des variétés de cafés tout à fait particulières. Ici, le dernier qu'on a rentré, c'est un Geisha Peach d'Équateur.
Il faut nous expliquer.
Ah, bon, ah oui,
voilà, Geisha, je vois quelqu'un en kimono, mais... c'est quoi le Geisha Peach? C'est la Geisha qui te dit ce qu'elle va faire? C'est quoi l'histoire?
Oh, mal, mais c'est pas
mais non, mais...
Du coup, Geisha Peach, c'est une...
mais Carlo, mais Carlo...
Peach de la Geisha, quoi. Oui, non, allez, Marie, prends ça, ça vous parle.
Plus sérieusement,
les enfants,
oui.
Nous écoutent.
pardon, les amis, je suis désolée, j'ai plus le contrôle, là.
Du coup, le Geisha Peach, c'est une mutation du Geisha, qui est une très belle variété, naturellement très très florale, assez difficile à travailler.
Variété comme un cépage.
Oui, c'est ça, tout voilà. Fait, c'est tout à fait la même chose. Et donc ici, c'est un Geisha Peach, c'est une variété nouvelle, c'est une mutation qui a été faite naturellement chez un producteur équatorien.
Ouais.
Et du coup ici, c'est un tout petit micro-lot, ouais. On l'a eu on a juste pu acheter 80 kilos. Il y a juste 140 kilos qui ont été vendus dans le monde.
Ah ouais, c'est ça.
Et alors, ce café, justement, à l'origine, chez le producteur, c'est un café qui a été séché après lavage ou sans pré-lavage?
C'est un lavé, celui-là.
C'est un lavé.
Geisha Peach, il est en honey process.
Ah, il est honey process.
Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, il est partiellement dépulpé. On laisse une petite partie de la pulpe et qui s'appelle le mucilage. Et donc, en fait, on va avoir un séchage du grain dans son mucilage. Et ça va donner un
goût.
Et donc,
quand il arrive,
quand il
arrive chez Corica, il va être torréfié directement ou il va falloir peler?
Ah non, il arrive chez nous totalement déparché.
Oui, c'est ça. Donc,
d'accord.
On ne fait pas un petit nettoyage.
Non, tout est enlevé déjà.
J'ai oublié ma question, c'est quoi ça? Ah oui, alors on est en train de déguster un café. Ouais. Alors, Marie-Emran, je vais juste vous demander de ne pas faire de bruit avec vos mains sur la table, parce que ça fait un bruit.
J'arrête.
On est en train de déguster un café, là. Et, alors, il y a effectivement une note de fruits assez incroyable, que je n'arrive d'ailleurs pas à identifier. Carlo, peut-être que vous pouvez m'aider.
Je ne sais pas. Je vais parler d'impression, parce qu'au fond, c'est ce que nous vivons, comme nos auditeurs le vivraient. J'ai l'impression de déguster du chocolat. En fait, et parce que ça me fait le même effet que quand vous prenez un chocolat noir parfumé, donc avec aussi pas de maltraitance, vous le laissez fondre sur la... Alors l'avantage du café, il est déjà chaud. Et donc il libère ses arômes. Le chocolat, il faut que la cavité buccale, comme on l'appelle, fasse l'effet des 37 degrés.
Ouais.
Et ça libère ce genre de notes. Des chocolats de type fruité. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il se passe des trucs de type végétal, mais des trucs... végétaux, et alors là aussi je vais dire une hérésie, on sent la belle acidité. Or l'acidité, il n'y a que la langue qui peut te la donner, mais je sais pas comment, par quel effet, au nez on anticipe qu'on va avoir une fraîcheur acide.
Qu'est-ce qu'on a justement comme...
C'est tout à fait, tout à fait juste, en fait on est sur des cafés dont la finalité est d'être fait plutôt en méthode douce, donc ce qu'on appelle les slow coffee, donc type percolé ou infusé, French press. Et
French press, quand
c'est
même,
quoi,
on rappelle,
c'est quoi,
on rappelle, c'est la Bodum, hein, donc les modèles Chambord. D'ailleurs, modèle Chambord, si vous êtes au château de Chambord, vous regardez tous les petits clochetons, vous allez avoir l'impression de voir toutes des cafetières en haut de chaque coupole.
Et ça coûte pas très cher. Ouais. Et tout, vraiment.
Voilà.
Après, on se gicle souvent du café sur le plastron, mais...
ça arrive, effectivement. Ouais. Et donc, c'est vrai que si on prend une roue des saveurs... ce qui est propre au café, on va dire qu'un tiers est orienté sur les amertumes qui peuvent être cacaotées, terreuses, boucanées, ce type de variété-là. Et puis après, il y a toute l'autre, les deux tiers du reste des saveurs qui est plutôt axé sur l'acidité. L'acidité qui va de temps en temps être axée sur les fruits blancs. Bon, très clairement, tout ce qui est agrumes. Mais là, de nouveau, j'aime bien piéger les gens en disant, OK, je vous dis citron, acide, orange, tout ça. Mais il y a quand même orange amer, pamplemousse. Là, les gens sont déjà plus en doute de savoir si c'est acide ou amer. Et après, la dernière partie qui est très appréciée dans le type geisha et éthiopien, c'est les fruits rouges, en fait.
Luca nous envoie un petit mail. Il est originaire de Naples, donc autant vous dire que pour lui, le petit café stretto stretto, bien serré, bien torréfié, c'est un petit peu visiblement une Madeleine de Proust. Il dit: j'ai beaucoup de mal à retrouver ce côté très torréfié dans les cafés de spécialité que je déguste par curiosité. Et est-ce qu'effectivement, on pourrait trouver ce côté un petit peu plus... Je vais utiliser le terme, mais un petit peu plus cramé, quoi. Oui, qui plaît quand même, malgré tout. Moi, j'en suis aussi, mais...
En fait, moi, je trouve que c'est pas 100% rédhibitoire. C'est juste que dans la manière dont... c'est pas non plus quelque chose de super vieux, cette tendance, finalement, d'aller explorer les cafés. Mais comme l'idée initiale, c'est de vous proposer un produit agricole et de comprendre tout l'intérêt fruité de ce café, les torréfactions sont souvent un peu claires. Et quand on pense à un espresso type italien... Pour moi, j'aime bien aussi les torréfactions poussées, mais il y a déjà deux manières de faire une torréfaction poussée. Et il y a la manière rapide et la manière lente que moi, je préconise. Ah. C'est de faire des profils de cuisson plus longs et plus lents. Et en fait, ce qui va sortir la créma du café, c'est principalement du CO2 et de l'émulsion de l'huile végétale lors de l'extraction. Et donc, pour moi, c'est intéressant de faire un profil de torréfaction qui est long et qui va diffuser et donner de la rondeur. Et donc, il y a des cafés qui sont pas classés comme speciality, mais on a un cubain qui fait un superbe espresso.
C'est ça, mais dans la plupart des bars italiens, c'est plutôt d'abord de grandes marques italiennes, souvent mises en avant. Il n'y a pas cette culture. Pour eux, c'est ça le café, c'est ça ce goût. Et pas mal de réactions, effectivement, qui nous parviennent justement par rapport à ces profils aromatiques qui peuvent être assez déroutants. Michel nous dit, moi, j'ai plutôt l'impression de boire du thé quand je déguste. D'ailleurs, Fabrizio acquiesce. Il y a ce côté très léger.
Je suis à 100% d'accord avec Michel en termes de référence. Et comme vous l'avez dit, c'est pas depuis longtemps qu'on s'intéresse à ce type de café de spécialité. Et le tout, je pense, c'est de les apprécier chacun avec son histoire et ses références à soi. Et on peut très bien apprécier le petit expresso le matin parce que celui-là, il faut qu'il soit comme ça. et puis après, prendre un café de spécialité comme on prendrait un thé.
Il y aurait des moments de dégustation aussi, évidemment. Pas mal de questions d'auditeurs concernant l'art du service. C'est vrai que lorsqu'on a déjà eu l'occasion de parler de ces cafés de spécialité, on avait l'impression que le filtre n'était que la seule possibilité envisagée pour les sublimer.
Il y a le filtre, mais déjà, on parle de filtre, il y a quel type de filtre ? Il y a des filtres papier qui vont retenir... quasiment la totalité de la sédimentarité dans le papier. Les huiles végétales vont être retenues dans le papier.
Et donc, pas bon ?
Si, c'est pas mal, ça retient aussi le café. Ça va donner une solution qui est très aqueuse, une eau très parfumée, mais très, très, au niveau texture, qui est très aqueuse, donc peu de matière, à l'inverse de l'espresso.
Et donc, quel type de filtre on doit choisir, d'après vous ?
En fait, vous devez choisir ce qui vous plaît.
Oui, mais donnez-nous un conseil de pro, quand même, parce que franchement,
je veux dire, ça dépend. Il y a aussi des filtres métalliques qui retiennent, mais qui laissent quand même, malgré tout, passer une partie de ce côté huileux du café. Donc, on a une solution qui est légèrement plus texturée. Et puis après, l'espresso, c'est une émulsion et un extrait avec la pression qui vient aussi traverser un filtre métallique, puisque ce porte-filtre est métallique, et va quand même donner là vraiment une crémosité et le côté, le nappage velouté qu'on aime tant à l'espresso type italien.
Et je pense, si on doit confronter un peu les cultures, la nouvelle culture du café de spécialité, notamment filtre, et de toute façon, café de spécialité, espresso, c'est une nouvelle culture aussi, c'est que finalement, on pourrait se référer à la façon italienne de consommer le café. C'est que nous, en Belgique, enfin, tout a changé, mais on avait tendance à boire du café, et les Italiens prennent le café.
Oui.
Et donc, l'espresso synthétise ça, parce que l'espresso, c'est un peu comme quand on boit, je sais pas, une flûte de champagne. C'est qu'il y a le début, il y a la mousse, il y a le corps et puis il y a la fin que tu grattes, à la limite tu mets un peu de sucre pour gratter la fin. Donc c'est un objet. Ce n'est pas moi j'adore le café qu'on vient de déguster là, qui est un café de filtre, mais il y a une trame unique. C'est comme si j'avais versé du vin rouge dans mon verre, et c'est délicieux, mais l'espresso, c'est un autre monde différent, qui est vraiment, c'est un objet qu'on incorpore et qui est composé de trois choses.
Mais je suis assez d'accord. Maintenant, j'avoue que pour moi, malgré que c'est mon métier, on a une machine à espresso à la maison, mais en fait, je l'utilise quasiment pas. Par contre, à l'inverse, au travail et la journée, je bois des espressis toute la journée.
Avec vos cafés.
Avec mes cafés.
Oui, donc on peut très bien utiliser les grandes machines de barista.
Sur une machine professionnelle, en fait. C'est ça où le bât blesse quelque part, c'est d'avoir cette qualité d'un espresso professionnel à la maison est hyper coûteux parce que les machineries sont chères. Ouais. Et c'est aussi ça la question. Quelque part, l'avantage du specialty coffee permet que le matériel est beaucoup moins cher.
Oui, et alors justement, ça tombe bien parce qu'on a Johan qui nous envoie un petit mail. Lui, il a acheté des petites capsules à remplir lui-même qui sont, effectivement assez faciles à remplir. Est-ce qu'il serait juste judicieux qu'il y mette un café de spécialité et qu'il fasse passer cette capsule dans une machine qu'on a peut-être tous à la maison.
Mais, oui, vous pouvez. Maintenant, on peut. En fait, on peut tout. Hein.
Oui, mais c'est pas. La question, est-ce que c'est judicieux en termes de respect du produit ou le filtre fera mieux le job?
En fait, le filtre, pour moi, fera mieux le job. Je vais vous le dire. Pourquoi? D'accord. Parce que finalement, on n'a que 5 grammes dans une capsule. C'est que vrai. Trouver la bonne mouture qui fit parfaitement va être compliqué, surtout sur des torréfactions claires. Donc nous, on peut, avec des machines qui sont extrêmement coûteuses, moudre ultra fin, faire des pré-infusions, avoir des contrôles sur la température instantané. Ben, autant vous dire, c'est jamais ce que vous propose votre machine.
Bon, ben, les amis, il est temps de ressortir de la cafetière de mamie. Hein. Ah ben oui, c'est dans le temps. Comme vous voyez, tout revient toujours à la main.
Bien sûr,
c'est formidable.
C'est une évolution, c'est pas une révolution.
Une évolution, mais on revient quand même au basique. Hein. C'est formidable tout ça. Alors, on va s'offrir une petite pause pub, les amis. Et juste après, on va parler de science.
Oui,
Petit chose, ça vous dit?
Allez, bon, ça me dit.
Juste après ceci.
Bah oui, ça semble.